J'aimerais que nous allions dans l'Épître aux Hébreux. La fois dernière, je m'étais arrêté dans Hébreux au chapitre 2. J'avais trouvé ça tellement difficile que j'avais dit que plus jamais j'y retournerai. Mais voilà, j'y suis quand même. Et cette fois-ci au chapitre 11. Je vais lire du verset 8 au verset 19. Un chapitre bien connu de tous, qui parle de la foi des patriarches. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Hébreux 11, verset 8 à 19. Vous l'avez ou je me suis trompé? Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, et elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Le chapitre 11, comme je disais avant, c'est un chapitre que l'on connaît bien, notamment les premiers versets, qui nous donnent les trois premiers versets qui nous donnent une sorte de définition de ce qu'est la foi. Si je demandais à José, il pourrait me le citer sans regarder. Les versets qui suivent, 4 à 5, ainsi que les versets 7 et 8, donnent des exemples de foi. Et les versets 6 et 7 sont une sorte de digression qui indique que la foi est quelque chose d'indispensable dans la vie du croyant, et notamment du point de vue de sa relation avec Dieu. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans foi. Et la Bible dit, enfin dans cet endroit, on dit qu'on n'est pas agréable à Dieu sans la foi. Si on réduit le terme de foi à son sens le plus commun, le plus général, on rejoint finalement la définition qui est donnée en début de chapitre, c'est-à-dire une faculté de croire quelque chose qu'on ne voit pas. Et si effectivement c'est ça la définition générale, on peut dire que le monde entier vit dans la foi. On peut dire que ça n'est pas, que la foi n'est pas une exclusivité du croyant. Éphésiens dit que, dans Éphésiens 2:2, parle du prince de ce monde qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Si vous avez les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de vous et comment les gens agissent dans la vie quotidienne, et moi je suis à mon travail tous les jours témoin de la façon dont les gens mettent en œuvre leur foi pour leur vie quotidienne. Des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de capacité, qui vont s'engager dans un chemin de formation. Et lorsqu'on leur demande « Mais est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux faire plus tard ?» Ils disent « Oui !» Et quand vous leur dites « Mais est-ce que tu te rends compte qu'il va falloir travailler 42 ou 45 ans dans ce métier-là » Ils disent « Oui, il n'y a pas de problème. C'est ce que je veux faire. » Et on voit que les uns et les autres se sont formés une forme de croyance dans leur avenir. Ils ne la voient pas. Ils sont incapables de dire ce qui va se passer le jour d'après, dans 15 jours, dans un an. Mais ils ont mis en œuvre une forme de foi qui va les faire bouger, qui va les faire agir. Et au gré des illusions, des désillusions, des réussites, des succès, ils vont continuer comme cela à marcher dans leur vie quotidienne. C'est là une forme de foi, et c'est celle qui s'appuie sur la connaissance que le malin donne à chacun. Il y a des projets qui sont mis en œuvre. Vous voyez certaines des choses que je vois, des millions qui sont mis en œuvre, avec des espoirs absolument incroyables sur le papier, de transformation de la personne, de développement de la personne. Ces choses-là sont mises en œuvre avec dans l'idée que cela va accomplir des choses formidables. Et avec dans l'idée, dans une finalité qui est que le monde entier va changer avec ça. Pas seulement la situation individuelle de chacun, mais que tous ces dispositifs que l'on met en place, tous ces projets que le monde met en place, ont une destinée, c'est changer le monde et l'améliorer. Et la foi a beaucoup à voir là-dedans, parce que les gens ne savent pas du tout ce qui va se passer. Je pourrais vous faire de longues heures sur la notion de système. Eh bien, c'est pareil, on met en œuvre quelque chose, et le système démarre. Et il démarre avec nous et il termine sans nous. Et croyez-moi, dans le monde aujourd'hui, il faut beaucoup de foi pour vivre au quotidien. Mon sentiment, c'est que nous, croyants modernes, nous qui disons nous appuyer sur la parole de Dieu, sur les paroles de Dieu. Mon sentiment, c'est que, bien souvent, nous agissons tout juste comme le monde agit. Et que notre foi ne dépasse pas cette foi d'ordre général que le monde professe au quotidien. Sauf qu'on a juste remplacé des mots. On n'a pas dit que c'est le hasard ou n'importe quoi d'autre. On dit... c'est Dieu. Mais avec quelle certitude dans le cœur? Si c'est le cas, vraisemblablement que beaucoup d'entre nous, sommes vides à l'intérieur, incapables de puiser quoi que ce soit en nous, pour nous-mêmes, et incapables de donner aux autres. Le danger de nos vies en tant que chrétiens, c'est que nous soyons séduits sur ce point-là et que nous vivions dans une foi qui est fausse. Je me rappelle un très bon ami à moi qui était paraplégique, qui est paraplégique, et qui pendant des années a espéré que Dieu le guérirait. Pendant des années, il s'est attaché à augmenter sa foi, à croire suffisamment, à prier suffisamment, à aller dans toutes les réunions où la guérison était dite intervenir, à aller dans toutes les réunions où les délivrances étaient mises à l'honneur, jusqu'au jour où complètement découragé, il a presque abandonné le Seigneur. Il a presque abandonné le Seigneur dont il parle si bien, dont il parlait si merveilleusement. Mais il trouvait que sa foi n'était pas assez forte dans un premier temps. Et il était abattu à cause de cela. Et une fois qu'il était abattu à cause de cela, il a trouvé que vraisemblablement, c'était sans doute l'Église dans laquelle il était qui ne permettait pas que la guérison se fasse. Et alors, après s'être blâmé lui-même, il a blâmé les autres. Et vous savez qu'en blâmant Dieu, et notamment les serviteurs de Dieu, ce ne sont pas les hommes que vous blâmez. C'est Dieu lui-même. C'est ce que Dieu a dit à Moïse lorsque le peuple d'Israël a murmuré. Ce n'est pas contre toi qu'ils en ont, c'est contre moi. Dans le passage que je viens de lire, la foi des patriarches, et notamment celle d'Abraham, est qualifiée d'exemplaire. Elle est qualifiée de la foi qui plaît à Dieu. Ça transparaît à chaque fois qu'on parle de la foi d'Abraham. Et j'aimerais qu'on s'attarde juste sur les aspects de la foi d'Abraham. Je passerai Sarah sous silence, mais j'ai juste relevé trois points qui concernent la foi d'Abraham. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Abraham a obéi. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre à sa place. C'est peut-être difficile parce que ça remonte à loin. Mais un Dieu pas vraiment très connu lui parle. On voit ça dans Genèse au chapitre 12. Et il lui dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je ne sais pas si vous connaissez les coutumes des gens, notamment dans ces pays où la terre, l'environnement, les pâturages, tout était connu. Et si Abraham étant un bédouin, ce n'était pas nécessairement un problème pour lui de se déplacer. Mais de quitter son pays, c'était autre chose. Et il a obéi. C'est nécessairement parce que la parole qui lui est arrivée, la parole qu'il a reçue de Dieu, était convaincante. Elle était suffisante pour qu'il accepte de partir. Partir, ça impliquait un arrachement à la terre, un arrachement à sa patrie, un arrachement à ses racines, son identité culturelle, mais aussi à sa spécificité en tant qu'homme. C'est-à-dire que lorsqu'on appartient à un cercle, on a un rôle, on a une position, on a une place. Eh bien, tout cela, il a dû le quitter. Il a dû laisser cela. Et il a pris la route. Il a dû peut-être lutter contre son caractère qui réclamait peut-être et qui disait « Mais non, moi je ne veux pas partir. » Il a peut-être dû quitter des certitudes qu'il avait de ce que son avenir devait être ou pouvait être. Il a tout laissé. Et dans ce mot, il obéit. On comprend que ce n'était pas juste une chose simple que de partir. C'était une grande entreprise. Ils étaient nombreux, il avait des serviteurs nombreux, il avait un troupeau nombreux. Il est parti avec Lot et ils ont quitté ce qu'ils avaient. J'ai appelé ça le temps de la déstabilisation. N'est-ce pas ? Lorsque vous devez quitter comme cela, la moindre des choses, c'est d'accepter d'être déstabilisé. On ne peut pas imaginer que ça n'a aucun effet dans la vie quotidienne et que, oh bah oui, bah voilà, hier j'étais là, demain je serai là-bas, il n'y a aucun problème, c'est facile à faire. On peut le dire comme cela. Mais la réalité va montrer tout autre chose. La réalité montre une vraie déstabilisation à l'intérieur. Si on lit les évangiles avec cette idée en tête, on s'aperçoit que l'œuvre de Christ a été une œuvre de déstabilisation. Il n'a fait que ça. Déstabiliser les certitudes de tous et de chacun. Des disciples, des hommes et des femmes qu'il rencontrait, des pharisiens, mais aussi les rois. Et, par-dessus tout, les puissances des ténèbres. Il a tout déstabilisé pendant son ministère. Et le seul qui a obéi, c'est lui. Mais ça nous pose une question à nous qui disons avoir la foi. Est-ce que lorsque la parole de Dieu nous vient et qu'elle nous dit « quitte », lorsqu'elle nous déstabilise et qu'elle nous dit « quitte », quitte tes idées, quitte ta façon de faire, quitte ta façon d'être, éloigne-toi de ce pays que tu connais si bien. Éloigne-toi des ornières dans lesquelles tu t'inscris depuis tant d'années et qui t'ont façonné, qui t'ont fabriqué, qui ont fait ce que tu es, peut-être un gars costaud et fort, peut-être quelqu'un d'intelligent. Lorsque la voix de Dieu vient et te dit « quitte », est-ce que tu lui réponds « ah non, moi jamais je quitterai ici ». Ah non, 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 le Nord, c'est ma patrie, jamais je ne quitterai ici. C'est impossible. De toute façon, c'est pas logique, Dieu peut pas me demander de partir. Il n'y a pas suffisamment de chrétiens encore ici. Abraham est parti, sans savoir où il allait. Et surtout, il n'a pas émis de discussions qui ont fait que, dès le départ, l'œuvre de Dieu aurait été annulée complètement. Est-ce que notre foi nous incite à croire dans toute l'œuvre de Dieu pour nous? Ou est-ce que nous en choisissons juste des bouts qui nous arrangent et dont nous nous accommodons? On lit au verset 5. Au verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. C'est par la foi qu'Abraham vint s'établir. Alors, non seulement Abraham était parti par la foi, mais il lui était demandé de s'établir. Abraham était un bédouin. Et il avait bien compris que Dieu ne lui proposait pas de devenir bédouin juste dans un autre pays. C'était pas, voilà, tu es bédouin là, maintenant tu vas être bédouin là-bas. Il avait compris qu'il y avait autre chose derrière. On le lit dans la suite du verset. Car, verset 10, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, Abraham savait que, d'une certaine manière, il avait là une autre vie, il avait compris que quelque chose l'attendait et qui était quelque chose de solide, quelque chose de fondé, quelque chose de fabriqué par Dieu. La cité au solide fondement dont Dieu était l'architecte. Mais après, on lit dans verset 13 que dans la foi, ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Et on peut se dire, mais quel est ce délire? On part pour aller s'installer dans un lieu, un pays promis. Mais finalement, on ne voit rien. Il n'y a rien qui vient. Mais quand même, on part. Et quand même, on s'établit. On entre dans le pays de Canaan. Eh bien, pourquoi est-ce que cela est possible? Est-ce que c'est du délire? Ou est-ce que peut-être on commence à toucher de près à ce que c'est que la foi? Parce que si la foi, c'est la faculté de croire à ce qui est invisible, à des choses invisibles qui vont intervenir, alors Abraham avait la foi. Mais Abraham avait la foi. Est-ce que nous, nous avons cette même faculté de croire que Dieu nous promet quelque chose? Que peut-être nous ne le verrons pas. Mais qu'il nous le promet. Est-ce que nous avons besoin de choses visibles pour nous encourager dans notre foi? Est-ce que nous avons besoin de quelques miracles de temps en temps pour que notre foi ne périclite pas? Si c'est le cas, c'est peut-être que la parole de Dieu, qui qui peut-être un jour est venu à notre cœur, n'a pas reçu l'accueil qu'elle devait recevoir, c'est-à-dire l'obéissance. Quitte, quitte. Si Abraham n'avait pas quitté, il ne se serait pas établi, n'est-ce pas? Il y a un ordre dans les choses. Dieu avait dit « quitte », il a quitté. Après lui avoir dit « quitte », il lui a dit « établis-toi ». Et Abraham a pu s'établir. J'ai écrit, en fait, la foi ne s'embarrasse pas des choses du visible. Parce que s'il y a bien quelque chose qui nous rend la foi difficile, ce sont les choses qu'on voit. Alors qu'on espérerait que ces choses-là nous donnent la foi. Si nous attachons trop d'importance aux choses que nous voyons, c'est la foi que nous perdons finalement. Si notre foi n'est pas bien établie, nous sommes en danger de ne pas nous établir dans l'endroit dans lequel le Seigneur nous a placés. J'avoue qu'il m'a fallu des années avant de planter un tableau au mur dans ma maison. Vous savez que quand on plante un tableau dans le mur de sa maison, c'est qu'on accepte de s'établir quelque part.
Vous ne saviez pas ça, hein? Je l'ai découvert.
Mais sinon, si on n'est pas sûr que l'endroit où on est le bon endroit, alors on est partagé et on vient et on repart et on se ravise et on revient et on repart. Abraham ne tenait pas à rester un bédouin. Il n'a pas dit « je suis un bédouin et je resterai un bédouin ». Il a dit « je suis un bédouin ». Et j'irai m'établir dans une cité avec des fondements solides. Si vous êtes en route pour le pays promis, Dieu vous y envoie pour vous y établir, pas pour que vous fassiez des allers-retours incessants. Dieu vous y établit lorsque vous lui aurez remis les rênes de votre vie. Lorsque vous aurez coupé les ponts derrière vous. Je me rappelle avoir vu un film d'animation avec les enfants, je ne sais plus le titre, où ils étaient là à plusieurs à partir pour aller je ne sais vers quel lieu. Et dans ce monde un peu étrange, il passait souvent sur des ponts au milieu de l'univers. Et systématiquement, un des trois ou quatre personnages qui étaient là se retournait. Et il détruisait le pont. Et ça faisait frémir tout le monde qui était avec lui. Mais on ne pourra plus retourner en arrière. Si le dragon nous attaque, on ne pourra plus retourner en arrière. Il savait quel était l'objectif. Et ils y allaient. Ils y allaient. Et ils coupaient tous les ponts derrière lui à tel point que c'était impossible de retourner en arrière. Ceux qui ont brûlé les ponts derrière eux ne marcheront plus jamais dans les ornières du passé. Plus jamais ils iront s'embourber dans les endroits où ils s'embourbaient sans arrêt. Mais ceux qui hésitent à tout laisser pour Dieu, à s'abandonner et abandonner leur vie, qui hésitent à donner les rênes à Dieu complètement de leur vie, lorsque Dieu viendra les tester, lorsque Dieu viendra leur demander ce qu'ils ont de plus cher au monde, lorsque Dieu viendra et dit « Je veux que tu me donnes ce qu'il y a de plus cher au monde », ce jour-là, la réponse sera non. Au verset 17, « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. » Vous vous rappelez l'histoire? Vous vous rappelez que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant? Vous vous rappelez que Sarah était vieille lorsqu'on lui a annoncé qu'elle aurait un enfant? Elle eut Isaac. Et lui, Isaac, qui était sa semence, qui était cette semence destinée à être la postérité promise par Dieu. Abraham avait obéi. Abraham s'était établi. Abraham avait reçu la promesse afférente à toutes les demandes de Dieu. Il avait reçu celui qui serait l'héritier. Celui... le seul, l'unique, il n'en avait pas d'autre. Et Dieu vient et dit, on va le lire, Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer l'incompréhension, peut-être, chez Abraham, mais une incompréhension qui n'a pas duré nécessairement longtemps. Parce qu'il a accompli ce que Dieu lui a demandé, et il l'a accompli sans chercher à transformer la réalité qui tout d'un coup s'imposait à lui. Il est dit qu'il se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac, fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ils ont mis 3 jours pour y arriver. 3 jours pour réfléchir. Verset 4. Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : « Mon père. » Il répondit : « Me voici, mon fils. » Isaac reprit : « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit : « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. C'est assez froid comme description, n'est-ce pas ? On ne nous parle pas des sentiments d'Abraham. Mais Abraham allait égorger son fils. C'est pas que il était sûr qu'il y a quelqu'un qui viendrait retenir son bras et mettrait un agneau dans les fourrés attaché à une corde. Abraham ne savait rien de cela. Abraham allait obéir à Dieu. Il allait égorger son fils. Frères et sœurs, j'espère que Dieu va nous tester ou vous attester chacun de cette façon-là. Parce que s'il fallait quelque chose pour fixer définitivement la foi d'Abraham, c'était cette œuvre-là. C'était d'accepter de donner à Dieu ce qu'il avait de plus cher dans sa vie. Et pour nous, c'est d'accepter de donner à Dieu ce qu'il y a de plus cher à nos vies. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être un enfant, ça peut être une position sociale. Ça peut être la maison, ça peut être n'importe quoi. Mais un jour, Dieu vient pour tester notre foi. Et il attend de nous la même attitude qu'Abraham a eue. La question qu'il vient nous poser, c'est toujours celle-ci. Est-ce que tu es prêt à me donner ce qu'il y a de plus cher aujourd'hui dans ta vie? Isaac était un don de Dieu. Peut-être même que Dieu nous a donné quelque chose de particulier, et que lorsqu'il nous demande de lui restituer, cela semble complètement illogique. Ce n'était pas logique de demander Isaac. Ça ne l'était pas, puisque c'était le seul fils par qui devait venir la postérité. Je connais quelqu'un à qui Dieu a dit : « Est-ce que tu es prêt à me donner ton fils ? » Je connais. Il lui a fallu un peu de temps pour dire oui. Et lorsqu'il a dit oui, il lui a restitué. Si à ce moment-là, Abraham n'avait été qu'un comédien ou un hypocrite dans sa foi, ça se serait su immédiatement, n'est-ce pas ? Parce que lorsque Dieu nous teste, il nous teste avec des questions qui exigent des réponses courtes. C'est oui ou non. Il n'y a pas de discours possible autour. C'est oui ou c'est non. Et la foi c'est celle qui croit que même si toutes les circonstances externes montrent que plus rien n'est rationnel, que plus rien n'a de sens, que plus rien ne fait écho à ma raison, la foi, la vraie, c'est celle qui continue de façon tout à fait régulière et ferme à croire que Dieu est présent dans l'affaire, qu'il est à l'origine de l'affaire, qu'il est dans l'affaire et qu'il sera à la fin de cette affaire. Vous comprenez qu'on ne peut pas vivre la vie de Christ, la vie chrétienne, sur la base de notre foi. Nous n'avons pas en nous la capacité de vivre cette vie-là. Il est nécessaire que la foi que nous professons, et j'espère faire une autre prédication là-dessus une prochaine fois, il est nécessaire que la foi que nous professons soit celle qui a été mise en œuvre et placée en nous-mêmes par Dieu lui-même. Parce que nos tentatives d'augmenter notre foi, d'avoir plus de foi, pour voir plus de miracles, pour voir plus de guérisons, seront toutes vouées à l'échec. Ou, pire que cela, si ça fonctionne, c'est parce que nous aurons agi dans la désobéissance. Nous verrons plus tard que Saül a voulu se sortir d'une situation difficile et il a utilisé la désobéissance pour cela. Il a mis en œuvre une forme de foi qui était une désobéissance devant Dieu, qui a attiré à lui la puissance démoniaque. Et Saül a perdu non seulement son trône, mais il a perdu sa paix. Alors que Dieu lui promettait des choses merveilleuses, de prophétiser, alors qu'il lui promettait une situation de roi absolument fantastique, Saül a tout perdu. Lorsqu'on essaye de fabriquer la foi, lorsqu'on essaye de l'amener, de l'attirer à nous, lorsqu'on utilise la foi pensant que nous pouvons manipuler Dieu avec, les puissances sataniques sont présentes. Elles se saisiront de la désobéissance. Et alors que vous penserez agir au nom de Dieu, vous agirez au nom de Satan. Et aujourd'hui, dans le monde dit chrétien, nous pouvons voir de nombreux miracles qui ne sont pas des miracles de Dieu, qui agissent sur la base d'une foi qui n'est pas celle de la foi du Fils de Dieu, mais sur la foi des personnes qui parlent. Ça, j'en ferai une autre prédication un peu plus tard. Voilà, je vais m'arrêter là. Seigneur, notre Dieu, il est merveilleux de voir que nous nous adressons au même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est merveilleux, Seigneur, de savoir que ce que tu as dit est fait aux patriarches. Seigneur, nous pouvons aujourd'hui encore en tirer des enseignements pour nos propres vies. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons que la foi qui est en nous soit la foi du Fils de Dieu. Seigneur, que nous cessions de vivre dans une illusion, essayant de fabriquer les choses par nous-mêmes. Et Seigneur, si nous n'avons pas compris, nous voulons revenir au début. Et lorsque tu nous demandes d'obéir, nous voulons obéir et quitter. Et lorsque tu nous demandes de nous établir, nous voulons nous établir. Et lorsque tu nous demandes de nous donner ce qu'il y a de plus cher, Nous voulons, Dieu, être trouvés comme étant ceux qui, sans aucune excuse, te donnent ce que toi-même tu nous as donné. Seigneur notre Dieu, je te prie, par le nom de Jésus le victorieux, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de foi. Ceux qui n'ont pas besoin de voir les choses visibles pour croire. Ceux qui n'ont pas besoin de se fier sur les miracles que tu as faits ici ou là. Mais qui sont disposés à te croire. Même si tout est à l'inverse de ce qu'on pense que ça devrait être. Seigneur, nous voulons que tu fasses de nous des hommes et des femmes établis dans la foi du Fils de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.